Je voudrais, pour aborder ce sujet, l'Église, relire avec vous un texte parmi d'autres, et peut-être le plus classique, celui que nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur et avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Je poursuis au verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Et cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Et ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et ballottés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Je ne saurais vous dire à quel point est devenue mienne, devant la tâche qui m'est ici dévolue, à quel point est devenue mienne l'immortelle réplique du Phèdre de Racine. Acte 1, scène 3. Ciel, que vais-je lui dire et par où commencer ? Cédante à l'anxiété, dont le père Hugo disait qu'elle est un conseil d'agenouillement, je veux en effet compter sur l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'il est lui, non seulement le seul à pouvoir authentiquement parler à chacun de ce qui est sa propre maison, mais aussi le seul qui puisse nous garder de nous satisfaire de ne connaître de cette maison de Dieu, de nous garder de nous satisfaire de n'en connaître que les courants d'air ou les placards. Il me semble, justement, qu'il est bon d'étudier d'abord le plan de la maison, de repérer la surface de cette maison qu'est l'Église, et d'en suivre les contours. Rassurez-vous, je ne vous prépare pas à un long cours de dogmatique, mais je voudrais simplement procéder à un bref rappel préalable de quelques données fondamentales, élémentaires même, de l'Écriture au sujet de l'Église et voir comment ces données élémentaires peuvent nous éviter de prendre par exemple les cloisons intérieures de la maison pour les murs de soutènement. Et comment ces données fondamentales peuvent nous éviter aussi de prendre la porte de notre petite cuisine pour la porte d'entrée. Par une heureuse convenance avec la métaphore du bâtiment, le Nouveau Testament présente, me semble-t-il, quatre notes dominantes de l'Église, qui sont donc comme les quatre côtés de l'édifice. De l'Église, en effet, le Nouveau Testament nous dit qu'elle est, premièrement, le peuple de Dieu. Incontestablement, le Nouveau Testament comprend l'Église comme le nouvel Israël de Dieu. L'Israël selon l'Esprit. Quand l'apôtre Pierre, dans sa première épître, écrit à la communauté des élus dispersés en Galatie, en Cappadoce, au pont, en Asie, en Bithynie, il les invite, 1 Pierre 2, il les invite à s'édifier comme des pierres vivantes sur Jésus-Christ, pierre vivante de base, principale de l'angle, et à s'édifier en une maison spirituelle, laquelle maison reçoit sous la plume de l'apôtre Pierre, et je le crois sous l'inspiration du Saint-Esprit, laquelle maison reçoit tous les titres qui étaient attribués auparavant à la maison d'Israël selon la chair. Vous êtes une race élue, écrit l'apôtre Pierre, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. La deuxième note du Nouveau Testament sur l'Église. L'Église est le corps de Jésus-Christ. C'est la métaphore centrale dans l'enseignement de l'apôtre Paul sur l'Église. Romains 12, 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 12 développe, déploie richement le contenu de ce thème. L'Épître aux Éphésiens, nous avons lu le chapitre 4, nous trouverions quelques mentions dans le chapitre 1. L'Épître aux Éphésiens ajoute, par rapport à l'Épître aux Corinthiens en particulier, à l'Épître aux Romains, la présentation du Christ comme chef du corps, tête du corps. En soulignant ainsi que la métaphore du corps qui illustre l'être de l'Église n'implique ni fusion ni assimilation mystique à aucun degré du Christ et de l'Église. Le Christ n'est pas le corps et le corps n'est pas le Christ. L'Église est le corps du Christ qui en est la tête. Et il y a entre l'Église et le Christ un vis-à-vis, un face-à-face, qui est aussi celui du peuple et de son chef. Et là encore, nous retrouvons la convenance à l'image du bâtiment, à l'image de la construction. Paul parle dans l'Éphésiens 4, si vous l'avez remarqué, de l'édification du corps de Christ, des pierres vivantes. Et de cet édifice qui s'édifie lui-même dans l'amour. La troisième note du Nouveau Testament sur l'être de l'Église nous dit que l'Église est la communion du Saint-Esprit. Nous retrouvons pratiquement les mêmes textes d'appui. tant il est vrai que rien d'autre n'assure l'unité du corps que l'unicité de l'esprit. Le corps est un parce qu'il y a un seul esprit en tous les croyants. C'est tout le fond de la démonstration de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12. L'Église est l'assemblage en un seul corps de tous ceux qui ont été baptisés dans le même esprit. Et au verset 13, l'apôtre Paul dit « Nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour être un corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. » La quatrième note du Nouveau Testament sur l'être de l'Église nous dit que l'Église est le rassemblement des croyants. Cette note nous rappelle, s'il était nécessaire, en nous parlant de croyants, que la foi est la condition nécessaire et suffisante de l'appartenance au peuple de Dieu, de l'agrégation au corps de Jésus-Christ. Mais cette note de l'Église comme rassemblement des croyants fait aussi le lien entre l'être de l'Église et l'existence des Églises. Si la conjonction de tous les croyants définit l'être de l'Église universelle, le rassemblement de quelques croyants établit l'existence d'une Église qui n'est pas moins Église. Et il me semble que cette quatrième note de l'Église comme rassemblement des croyants doit protéger l'universalité de l'Église de devenir une abstraction désincarnée. Et c'est pour ça que nous voyons Paul écrire sans l'ombre d'une hésitation théologique. Il écrit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Les quelques croyants de Corinthe sont l'Église de Dieu. Ça ne fait aucun doute pour Paul. Il écrit aux églises de la Galatie. Et dans Apocalypse 1, le Seigneur lui-même invite l'apôtre Jean qui reçoit la révélation a envoyé le livre aux sept églises qui sont en Asie et au milieu desquelles le Seigneur se tient. Et nous voyons même dans une sorte de pointe extrême de cette affirmation, Paul écrire à l'église des Thessaloniciens. Quand on réfléchit à ce que dit Paul, là, l'Église des Thessaloniciens. Il ne fait vraiment aucun doute dans l'esprit de l'apôtre que la réalité de l'Église, que la réalité de l'Église universelle de Jésus-Christ, si elle ne se réduit pas, c'est vrai, à une multiplication d'assemblées locales, ne se trouve pas non plus en dehors de tous les rassemblements de croyants en quelque lieu et en quelque temps que ce soit. J'en ai fini pour ces quelques banalités théologiques, dont je suis sûr qu'elles n'ont surpris personne, tant elles sont bien établies, me semble-t-il, dans le Nouveau Testament. Je crois que pour être des banalités, il convient pourtant de ne pas s'en écarter, dû l'originalité du propos en souffrir. Parce qu'elle me semble précisément ces quatre notes de l'Église, dans leur simplicité, dans leur clarté, dans leur immédiateté de lecture, elles me semblent constituer la base solide et facilement reconnaissable par tous de tout développement ecclésiologique ultérieur. Je crois que là, nous sommes d'accord sur l'essentiel. Restons-en à l'essentiel. Les considérations qui vont suivre ne vont guère s'éloigner de cela. Elles se sont données comme règle de sagesse et de salubrité de ne pas se perdre dans des explorations trop audacieuses et novatrices, qui justement nous auraient trop éloignés de ce camp de base sûr que nous donne le Nouveau Testament. J'aimerais seulement essayer de tirer de cela quelques affirmations simples. La première affirmation simple que je vois comme conséquence de ces quatre notes de l'Église et de cette présentation. Si l'Écriture présente l'Église au travers d'une pluralité de notes, quatre principales me semble-t-il, et on pourrait y rattacher d'autres notes sans doute accessoires. Si l'Écriture présente l'Église au travers d'une pluralité de notes, et si, comme il me semble alors qu'il faut le comprendre, cette pluralité implique que l'être de l'Église ne se laisse cerner par aucune de ces notes prises séparément, puisqu'il faut qu'elles soient plusieurs pour dire l'Église. Si donc cette pluralité implique que l'être de l'Église ne se laisse cerner par aucune de ces notes prises séparément, mais seulement par leur jeu conjoint et réciproque, alors nous croyons être appelés comme devoir de fidélité envers l'Écriture à une conception symphonique de l'Église. Qu'est-ce que c'est qu'une conception symphonique de l'Église ou une attitude symphonique? C'est celle qui va se garder toujours de tirer parti d'une note pour en faire un numéro de soliste au détriment des autres. Autrement dit encore, je vois dans le mode même de présentation de l'Église dans le Nouveau Testament un appel, et plus qu'un appel, une exigence à rejeter toute conception sélective qui écarte, pour le privilégié ou pour l'atrophié, un aspect de l'Église. Un appel à une intelligence souple et soumise au jeu constant et réciproque de ces quatre notes les unes sur les autres. Et si l'on regarde ce que l'on peut considérer soit comme déséquilibre, soit même comme des aberrations ecclésiologiques dans l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que la symphonie devient cacophonie dès que il y a fixation, atrophie ou hypertrophie d'une de ces notes aux dépens de la partition tout entière. Et j'insiste là-dessus, parce que je crois que c'est une notion de fidélité que nous n'avons pas héritée de ceux qui nous ont précédés. Je crois qu'il y va de la fidélité à l'Évangile même d'orienter nos comportements ecclésiastiques vers la symphonie de tous les croyants. Ce n'est pas une politique qui convient au temps que nous vivons. C'est une question de fidélité à l'Évangile que d'orienter nos comportements ecclésiastiques vers un chanter ensemble des louanges du même Dieu créateur qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Si Paul commence le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, qui parle de l'Église, en appelant au renouvellement de l'intelligence, c'est pas pour des prunes. C'est parce que justement, il faut ce renouvellement de l'intelligence et pas opérer une fois pour toutes à la conversion. Mais non pas un renouvellement ponctuel, mais un renouvellement continuel de notre intelligence pour éviter justement tout fixisme, toute fixation, pour acquérir cette intelligence spirituelle qui va toujours chercher à comprendre sans jamais accepter de se figer, qui va toujours chercher à saisir sans jamais accepter de s'asseoir. C'était la première affirmation simple. Deuxième affirmation simple. Dans sa présentation même, le Nouveau Testament présente, situe plutôt l'être de l'Église au point de rencontre de la Trinité divine et de l'humanité. L'Église est peuple de Dieu, corps de Christ, temple ou communion du Saint-Esprit. Nous retrouvons ramassé cette présentation trinitaire de l'Église dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Cette présentation de l'Église trinitaire, si j'ose dire, que nous dit-elle? Elle nous dit que l'Église est d'abord de Dieu, que l'Église est d'abord œuvre de Dieu, don de Dieu, trésor de Dieu, qu'il s'est acquis par son propre sang. L'Église appartient à l'amour de Dieu. Et partant de cela, je ne conçois pas pour un chrétien d'amour de Dieu sans l'amour de ce qu'il aime. Je ne conçois pas davantage la crainte de Dieu sans le respect de l'Église. Troisième affirmation simple. Si l'Église est trinitairement de Dieu, dans ses trois premières notes, mais si son être complet ne se donne à connaître que dans la résonance conjointe des quatre notes, alors l'introduction de la quatrième note, l'Église comme conjonction des croyants, et certes conjonction universelle et transhistorique, mais aussi, nous l'avons vu, conjonction locale, ici et maintenant. L'adjonction de la quatrième note à l'Église trinitaire n'enlève rien à l'exigence d'amour et de respect qui doit être la nôtre vis-à-vis de l'Église et que nous avons souligné à propos de l'Église trinitaire. Il me semble en particulier qu'il y a une position là devant Dieu. Si véritablement nous voulons accéder à la découverte de l'Église. Et quand je dis accéder à la découverte de l'Église, il y a là déjà toute une philosophie, toute une conduite, toute une attitude. Mais je crois que si nous voulons vraiment accéder à la découverte de l'Église de Dieu, alors il nous faut nous refuser de nous précipiter trop vite sur la trop facile et d'ailleurs trop peu biblique division de l'Église en Église invisible et Église visible. Parce que l'Église invisible, il est facile de la parer de toutes les perfections. Et il est facile de la prendre, elle qui est parée de toutes les perfections. Et il est tellement facile et commode de la prendre comme un stand de tir idéal, à partir duquel, avec bien sûr une sainte et vertueuse indignation, on va faire des cartons sur toutes les imperfections des églises visibles. De la mienne, si j'y vis mal, ou des voisines. Rassemblement local des croyants, l'Église est aussi l'Église de Dieu. Elle le reste au-delà de toutes ses imperfections, pourvu qu'elle reste rassemblement de croyants. Et alors qu'on ne se leurre pas, qu'on ne s'excuse pas, je crois qu'il convient simplement à une bonne santé spirituelle, et les bonnes santé spirituelles sont toujours faites d'une salubre humilité. Et réfléchissez-y un peu. Je crois que rien n'est spirituellement plus réaliste que l'humilité. Si nous voulons accéder à une position salubre sur le plan spirituel, et je ne dis pas seulement vis-à-vis des autres, mais pour nous-mêmes, et je crois que c'est nous-mêmes qui sommes en jeu, dans notre piété, dans notre foi, dans notre équilibre, dans notre harmonie intérieure, dans notre réconciliation profonde avec Dieu et avec les autres. Si nous voulons vivre ça, il nous faut délibérément refuser le petit jeu qui consiste à dichotomiser l'Église, à la couper en deux, Église visible, Église invisible, pour nous ménager un terrain de manœuvre critique, celui de l'Église visible, au nom de l'Église invisible. Je crois qu'il est malsain et faux, et que c'est une auto-séduction de croire que l'on peut critiquer n'importe comment les Églises sans toucher à l'Église de Dieu. Je crois qu'elle est malsaine et fausse, l'attitude de qui veut toujours tirer son épingle du jeu, mais qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel? En affirmant que ce n'est pas l'Église qu'il critique, mais les Églises. Pas le chef, mais les roitelés. Pas le Rédempteur, mais les rachetés. Pas le Saint-Esprit, mais les saints et les antipathies. Il ne suffit pas de revendiquer le meilleur pour se justifier, ni pour se sanctifier. En prolongeant cette ligne de réflexion, je voudrais établir, avec quelques prétentions, une vérité double, dont le paradoxe interne n'est qu'apparent. La première vérité, c'est qu'il n'y a pas des églises, il y a une église. Cette église, c'est l'église de Dieu, conjonction de tous les croyants. Si on lit bien le texte d'Éphésiens 4, Paul ne dit pas qu'il y ait un seul corps et qu'il y ait un seul esprit. Il y a un seul corps et il y a un seul esprit. Et s'il y a un seul corps, c'est parce qu'il y a un seul esprit. Comme il y a un seul Dieu, il n'y a pas des églises, il y a une église, conjonction de tous les croyants. Et de cette vérité fondamentale, il me semble que sans distorsion aucune, il s'ensuit qu'aucune confession ecclésiastique que ce soit ne saurait validement prétendre représenté ou incarné, ni réellement, ni potentiellement, le tout de l'Église de Jésus-Christ. Quand on marche le nez dans l'étiquette de son Église, le nez dans ses chaussures, persuadé qu'on a choisi le meilleur modèle avec les meilleurs lacets, on ne voit pas l'horizon. Et l'horizon, qu'est-ce que c'est ? C'est le royaume de Dieu symphonique. Parfaitement symphonique. Relisez Apocalypse. Les 144 000 représentant la plénitude du peuple de Dieu racheté, chantant d'une voix les louanges de l'agneau et de Dieu. Vous avez été appelés à une même espérance à cause de votre vocation chrétienne, dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 4. L'horizon, c'est le royaume de Dieu. Levez les yeux et regardez, dit le Seigneur Jésus. Levez les yeux et regardez. Peut-être cette invitation du Seigneur Jésus lui-même pourrait nous aider à nous interroger sur le particulier, sur le rituel, sur ce qui spécifie trop vivement une église ou une union d'églises, sur ce qui en fait plus un soliste qu'un participant symphonique. Il vaudrait la peine de s'interroger là-dessus. Levez les yeux et regardez. La deuxième vérité, c'est qu'il n'y a pas une église, mais qu'il y a des églises. Je veux simplement souligner par là que le recours à l'Église universelle idéale, à sa réalité spirituelle, ne saurait d'aucune façon servir d'excuse ni de validation à tout ce qui pourrait être prise de distance vis-à-vis de la claire nécessité d'un engagement chrétien dans un groupement local. Et c'est justement l'autre aspect de l'enseignement que Paul déploie au travers de la métaphore du corps. Parce que justement, il parle du corps, c'est-à-dire d'incarnation. Ce qui veut dire que la réalité spirituelle de l'Église ne joue jamais dans l'Écriture contre sa réalité historique enracinée dans l'histoire d'un pays, d'une ville, d'un patelin. La réalité spirituelle de l'Église ne joue jamais dans le Nouveau Testament contre sa réalité historique. Elle joue toujours avec et au travers de cette réalité historique. Que cette réalité historique soit aussi parcellaire que l'on voudra. L'image du corps nous parle d'incarnation et elle nous parle d'incorporation en toute rigueur. On a beaucoup plus de mal de façon très curieuse à comprendre la nécessité de l'incorporation dans l'Église qu'on en a à la comprendre quand il s'agit de l'armée. Il n'y a aucune hésitation quand on nous dit « tu vas être incorporé ». On sait très bien ce que ça signifie. Et que si on a l'honneur et le privilège d'être incorporé dans l'armée française, c'est pas pour rester à la maison, c'est pour rejoindre un régiment local. L'incorporation n'est pas un statut que l'on va vous distribuer à domicile et qui va vous permettre de rester tranquillement chez vous en ayant le sentiment exaltant, sans doute, d'appartenir à l'armée. Mais c'est quelque chose qui vous déplace et qui vous amène dans un régiment local. Comment se fait-il Comment se fait-il que quand les choses sont dites de l'Église, nous ayons les oreilles plus bouchées? Comment se fait-il que nous y cherchions des fuyants? Je suis très frappé de ce que dit Paul dans Romains 12. Quand il évoque le statut du chrétien, il ne dit pas seulement qu'il est membre du corps de Jésus-Christ. Il le dit, certes. Nous sommes membres du corps de Jésus-Christ, mais en devenant chrétiens, nous sommes membres les uns des autres. Les uns des autres. Il y a dans cette affirmation de Paul l'aveu, certes, qu'on ne peut pas être un membre à soi tout seul. Mais aussi, il y a, me semble-t-il, par-dessus tout cela, l'indication, comme composante essentielle, en ce sens qu'elle appartient à l'être même, à l'essence même de la foi en Jésus-Christ, une composante essentielle de la foi en Jésus-Christ, c'est la solidarité incarnée. Vous êtes membres les uns des autres. Une solidarité incarnée, effective, un cheminement effectif en compagnie d'autres à l'intérieur d'un peuple. Avec, bien sûr, les yeux fixés sur l'horizon du royaume de Dieu, ça va de soi. Avec les yeux fixés sur l'Église idéale, mais avec aussi sur l'épaule, la musette. Rempli du bon pain et du bon vin, de la communion fraternelle consistante, de la solidarité mise en œuvre, de la réciprocité d'amour, de patience et de support qui nourrit notre foi. Je crois que c'est comme ça que le Seigneur veut que nous cheminions vers son royaume et qu'à la limite, nous n'avons pas à choisir nos compagnons de voyage. Paul dit, et je crois qu'il vise là l'état de celui qui est un homme fait, de celui qui est arrivé à une certaine maturité spirituelle. Je crois que la véritable maturité spirituelle, c'est lorsqu'on a compris que même les membres les plus faibles sont nécessaires et me sont nécessaires. En reprenant Phèdre, ciel, que vais-je leur dire et par où terminer? Mais je vais laisser ces filocher mon propos. Je n'ai pas de conclusion massive à vous transmettre. J'aurais parfois désiré d'ailleurs vous transmettre un contenu vécu d'une vie d'église et comme pasteur et vous dire que nulle part comme là, on ne peut découvrir la richesse de Dieu, la bénédiction de Dieu et l'amour de Dieu et la patience de Dieu nécessaire à l'égard de chacun de nous et pas seulement à l'égard des autres. Mais aussi en terminant, je voudrais vous dire, vous inviter à réfléchir justement d'une façon simple, sans tout de suite passer à des développements ultérieurs, mais d'abord à rester dans ce camp de base des quatre notes de l'Église. Et à essayer de vous-même tirer toutes les conséquences qui vont apparaître du jeu réciproque de ces quatre notes. Je vais vous donner une ou deux pistes de recherche si vous voulez. Par exemple, la note de l'Église comme corps de Christ. On peut découvrir comment cette note Église, corps de Christ, avec toute la résonance organique et d'organisation par conséquent qu'elle comporte, permet précisément, quand on l'intègre dans le jeu symphonique, de corriger un possible dérapage de la note Église, rassemblement des croyants. Si je raisonne sur la seule note Église, rassemblement des croyants, je peux très bien aboutir à une Église entassement des croyants. Mais si je fais jouer la note de l'Église comme corps de Christ, alors j'évite de comprendre le rassemblement des croyants comme un entassement des croyants. De la même façon, il me semble que la note de l'Église comme communion du Saint-Esprit permet de ne pas glisser dans une vision institutionnalisée de l'unité du corps de Christ. Qu'est-ce que c'est qui fait l'unité ? Qu'est-ce que c'est qui fait l'Église ? Ce n'est pas l'organisation inhérente au fonctionnement d'un corps, c'est la communion du Saint-Esprit. Voilà, et puis tellement d'autres pistes que vous pourrez vous-même découvrir et approfondir. Alors au point où j'en suis, je ne vois plus qu'une chose à dire, moi aussi j'ai dit.